Emmanuel Combes est avec nous, professeur, enseignant, responsable de l'autorité de la concurrence. Il signe et co-signe un rapport sur l'avenir du secteur aérien, des compagnies aériennes après l'épidémie, la pandémie de Covid-19. Nous allons essayer de comprendre quel type de compagnie va vivre ou survivre, quel type de portrait de la situation on peut dresser. Ensuite, nous aurons un autre dossier au bout du jour, celui des statues de Léopold II et des autres traces du passé que certains souhaitent voir déboulonner, voire détruites. Nous allons nous poser ces questions avec Julien Volper, conservateur, historien et maître de conférences à l'ULB.
La première,
19h-20h,
au bout du jour,
Eddy Kachelbergs.
Bonsoir Emmanuel Combes.
Bonsoir Eddy.
On est avec une situation incontestablement lors de ces premiers pas de déconfinement très problématique pour le secteur aérien. Mais vous, dans votre rapport pour la Fondation pour l'innovation politique, vous nous dites avant même le Covid-19, le transport aérien en Europe était déjà très fragile.
Oui, vous avez raison Eddy. Disons qu'on avait des situations très contrastées entre les compagnies aériennes. Pour faire simple, de grandes compagnies historiques telles qu'Air France, KLM, Lufthansa, étaient dans une situation déjà fragile. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, elles réalisent des profits sur les vols long courriers, mais elles étaient déjà en situation délicate et même en perte sur tout ce qu'on appelle le réseau intra-Europe, c'est-à-dire le réseau moyen courrier. Donc on avait déjà une situation globale qui était plutôt satisfaisante, mais quand on regardait par acteur, on s'apercevait notamment que les grands opérateurs historiques, en tout cas certains d'entre eux, étaient dans une position qui était déjà fragile. Qui plus est, second point, nous avions des acteurs de très petite taille qui côtoient des acteurs de très grande taille. Bref, le marché européen est un marché assez fragmenté si on le compare notamment au marché américain. Pour vous donner un ordre de grandeur, les quatre leaders américains font de l'ordre de 70% de part de marché, alors qu'en Europe, les quatre leaders du marché font à peine 50% de part de marché. Donc vraiment, une situation fragile au sens où les grands opérateurs avaient déjà des difficultés sur le court moyen courrier, notamment à cause du low cost, et secondement, un marché avec un très 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 grand nombre d'opérateurs qui n'a pas fait encore, si j'ose dire, sa consolidation.
Alors, on est évidemment en Belgique particulièrement attentif à Lufthansa, vous le savez, parce que notre compagnie Brussels Airlines est plus qu'adossée à Lufthansa et que ces derniers temps, les discussions sont assez amères à cet égard. Est-ce que ça veut dire qu'il y a, singulièrement aussi avec une perspective de réforme peut-être du trafic aérien et de sa portée réelle dans l'après-Covid, est-ce que ça veut dire qu'il y a trop de compagnies ?
Alors trop, c'est toujours délicat de dire trop de compagnies puisque ça revient à dire qu'il faut qu'il y en a qui disparaissent. Mais malheureusement, je crois qu'on peut faire une prévision qui risque de se réaliser très probablement. Il va y avoir en effet des faillites, des sorties du marché, notamment par fusion-acquisition, c'est-à-dire les entreprises vont en racheter d'autres à la faveur notamment de la baisse des cours boursiers. Et puis on va avoir aussi, et ça qui est peut-être plus intéressant ou plus inquiétant, des très grandes compagnies, Eddy, vous évoquiez à l'instant le cas de Lufthansa, mais on pourrait dire la même chose pour Air France, de très grandes compagnies historiques qui, pour survivre, vont devoir réduire la voilure. Or, vous le savez, la nature en économie a horreur du vide, comme en toute chose, ce qui veut dire que cette réduction de voilure va forcément permettre à d'autres acteurs très très puissants de prendre, si j'ose dire, la place. Donc on a vraiment une situation qui est contrastée non seulement avant le Covid, mais surtout après le Covid, avec des acteurs historiques qui, à mon sens, vont être fragilisés, vont être obligés de réduire de taille. Et à l'inverse, des acteurs dont on parle beaucoup, notamment pour des sujets sociaux ou autres, qui vont monter en puissance, qui vont accélérer leur emprise sur le marché européen.
Oui, parce que dans ce rapport, vous nous décrivez effectivement un paysage assez fragmenté avec pas mal de petites entreprises ou de petits acteurs, mais vous dites, cela dit, parmi les low cost, il y a des grandes compagnies. Hein, vous dites Ryanair, Wizz Air, EasyJet, et eux, ceux-là disposent, ces avionneurs-là disposent de la surface financière suffisante pour non seulement rester en piste, mais peut-être s'agrandir.
Oui, on l'oublie parfois trop souvent. Ryanair est aujourd'hui, tenez-vous bien, la première compagnie en Europe par le nombre de passagers transportés. Quand je dis passagers transportés, sur le marché européen, bien loin devant Lufthansa. Donc c'est une compagnie tout à fait gigantesque. Dans une moindre mesure, on peut dire exactement la même chose de EasyJet qui transporte à peu près 100 millions de passagers, c'est-à-dire beaucoup plus qu'Air France sur le même périmètre, hein, si je sors tous les vols long courrier. Donc on a en effet deux géants en Europe. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ces deux géants n'ont pas tout à fait le même positionnement. On a d'un côté ce que j'appellerais l'ultra low cost, avec notamment toutes les limites sur le plan social que cela pose, qui est représenté par Ryanair, qui est également représenté par Wizz Air dans les pays de l'Est. Et ce modèle-là, qui décolle de petits aéroports, qui bénéficie parfois de subventions publiques, qui voit souvent d'un mauvais œil la représentation syndicale, ce modèle-là est extrêmement rentable. Alors c'est vrai que c'est très étonnant quand on dit cela, parce que vous connaissez le prix des billets de Ryanair, ils sont autour de 32-35 euros, et pourtant, tenez-vous bien, Ryanair a une marge qui est à peu près celle d'une entreprise de luxe, c'est-à-dire elle affiche des marges entre 12 et 15%. Donc c'est une compagnie très rentable, qui a du cash, qui a beaucoup de réserves financières, qui est capable de tenir un an sans voler, sans avoir besoin de recourir à des emprunts, y compris des emprunts d'État. On a une autre type de compagnie qui est un petit peu différente, qui est typiquement EasyJet, qui au fond est la compagnie qui fait mal à Lufthansa, Air France et British Airways. Elle décolle de grands aéroports, elle cible plutôt des clientèles affaires, elle est dans une position un peu moins confortable que Ryanair. Néanmoins, ce sont des compagnies, j'ai cité EasyJet, j'aurais pu citer Vueling, qui gagnent de l'argent. Donc en effet, on va avoir un paysage post-Covid dans lequel on a un acteur extrêmement rentable, Ryanair, qui à mon avis va pousser les feux au détriment des compagnies historiques. Et dans une moindre mesure, je dis vraiment dans une moindre mesure, EasyJet va également essayer de pousser les feux, sachant qu'EasyJet est paradoxalement handicapé par les aides d'État que viennent de recevoir Lufthansa et Air France, puisque justement, EasyJet est en concurrence directe avec ces acteurs. Car j'ai oublié de le dire, Ryanair en réalité n'est pas tout à fait sur les mêmes marchés que Lufthansa et Air France. Elle est plutôt au départ de petites villes, de province à destination d'autres villes de province en Europe, et ça n'est pas pour l'instant en tout cas un concurrent frontal pour Air France et Lufthansa. Mon opinion, c'est que Ryanair pourrait demain devenir un concurrent redoutable à la faveur de l'après-crise Covid.
Professeur Combes, lorsque on parle de Ryanair, ces jours-ci encore, on entend licenciement, mise en disponibilité de personnel sur plusieurs sièges. Il y a donc ce paradoxe continué, parce que ce n'est pas la première fois, de voir une compagnie, vous venez nous le rappeler, qui a une surface financière énorme, qui pourrait tenir un an sans voler, qui va probablement même conquérir de nouveaux marchés, qui en même temps a une attitude sociale questionnante.
Le problème de Ryanair, si vous voulez, c'est qu'en effet, elle pose problème, à la fois sur le plan des aides d'État, puisque Ryanair, vous le savez, touche parfois, souvent, des subventions d'aéroports, et secondement, Ryanair a en matière sociale des pratiques qu'on pourrait qualifier de très limites. Le problème, où est-il ? Le problème, c'est qu'en réalité, si on regarde vraiment les choses en face, Ryanair n'est pas complètement en infraction avec le droit européen. En réalité, Ryanair tire plutôt parti de l'existence d'une non-Europe sociale pour justement optimiser ses coûts de production. Parlons très clairement, typiquement les salariés de Ryanair, d'abord ne sont pas toujours sous le statut de salariat, et lorsqu'ils sont sous statut de salariat, ils sont sous droit irlandais, et le droit irlandais est beaucoup moins disant sur le plan social que dans d'autres pays. Donc si vous voulez, la difficulté avec Ryanair, c'est que cette posture de dénonciation morale, et qui est sans doute louable, je ne suis absolument pas un défenseur du modèle de Ryanair, si vous voulez, elle sort à une réalité qui cette fois-ci est juridique, c'est que jusqu'à présent, Ryanair a plutôt réussi sur ce terrain des subventions d'aéroports. Elle a certes parfois été, en de rares occasions, condamnée par la Commission européenne, et quand vous faites le bilan finalement de 20 ans de procédure contre Ryanair, eh bien très souvent les subventions ont été validées au motif que Ryanair avait des territoires. Et sur le front social, eh bien en réalité, on s'aperçoit que les vraies avancées sociales ont plutôt été poussées, typiquement il y a 2 ans ou 3 ans, tout simplement parce qu'il y avait une pénurie de pilotes en Europe. Hein, vous le savez sans doute, Ryanair, pour la première fois de son histoire, a reconnu il y a 2 ans ou 3 ans les syndicats de pilotes. Elle a dû procéder à des hausses de salaire très substantielles, mais non pas guidées, je dirais, par une harmonisation du droit européen vers le haut, mais tout simplement parce que les pilotes partaient de chez Ryanair pour aller à la concurrence. Donc, si vous voulez, on a à la fois raison de montrer toutes les limites et voire même, je dirais, la face sombre de Ryanair. Pour autant, moi, je persiste à penser que c'est moins Ryanair qui viole les règles de droit que les règles de droit européennes qui ne sont pas harmonisées et dont Ryanair tire le plus grand parti. En fait, Ryanair optimise sur l'hétérogénéité des législations européennes, notamment en matière de droit du travail.
Alors Emmanuel Combe, je m'adresse également à vous en tant que vice-président de l'autorité de la concurrence. À propos de concurrence précisément, on se retrouve, vous l'avez signalé, avec quelques grandes compagnies, c'est le cas effectivement chez nous également, hein, pour ce qui est de Brussels Airlines, de compagnies subventionnées par l'aide publique. Certains ici disent que cette aide publique doit s'accompagner d'une montée en puissance d'un actionnariat d'État, voire d'une renationalisation. Quel est l'état de la concurrence précisément dans le ciel européen ?
Alors jusqu'à présent, on est plutôt sur une concurrence assez intense, hein, c'est-à-dire qu'en Europe, les prix sont très bas, notamment grâce à Ryanair et EasyJet. Si vous comparez le niveau des prix en Europe par rapport aux États-Unis sur des trajets bien sûr comparables en distance, hein, on peut dire que le marché européen était plutôt assez concurrentiel. Quand sera-t-il demain, post-Covid, je crois qu'on a des raisons d'être plutôt pessimiste. Tout simplement parce que vous allez avoir des faillites, vous allez avoir des fusions, alors il est vrai que les fusions, vous le savez, sont contrôlées par les autorités nationales et par la Commission européenne, justement pour éviter ces hausses de prix, mais on aura, à mon avis, mécaniquement une réduction de la concurrence sur le marché européen. Pour ce qui est des aides d'État, je crois qu'au fond, on n'avait pas le choix. C'est peut-être très difficile à entendre, mais il faut parfois savoir entendre les choses telles qu'elles sont. Sans aide d'État, Lufthansa et Air France auraient été assez rapidement acculés à la faillite. Il faut bien voir qu'on est face à une crise d'une violence absolument extraordinaire et que le seul moyen de passer la crise, c'est d'avoir beaucoup de trésorerie. Tel n'était pas le cas pour ces deux compagnies. Et donc, au fond, et Margrethe Vestager, la commissaire à la concurrence, l'a très clairement dit, au fond, les États n'avaient pas d'autre choix qu'aider leurs compagnies domestiques, finalement, en leur faisant des prêts. Pourquoi pas demain, mais ça n'est pas pour l'instant à l'ordre du jour, en les recapitalisant, c'est-à-dire en réalité en prenant le contrôle de l'entreprise. Vous avez raison, ces aides d'État, par définition, vont avoir également un impact sur la concurrence, puisque par définition, tout le monde n'est pas aidé, ne sont aidés que les entreprises en difficulté. Mais il y a un principe important en droit, c'est bien sûr le principe de nécessité. Au fond, sans ces aides d'État, les entreprises auraient de toute façon été acculées à, peut-être pas une faillite, mais en tout cas à un déclin certain. Et donc, en réalité, en leur permettant de survivre, on ne réduit pas la concurrence, bien au contraire. Donc, là où on peut avoir une source d'inquiétude, c'est vis-à-vis des toutes petites compagnies qui sont extrêmement efficaces. Je ne parle pas de Ryanair, qui de toute façon va survivre à la crise sans aide d'État. Je pense plutôt à des petites compagnies par la taille, mais qui sont extrêmement efficaces et qui pourraient peut-être se retrouver marginalisées, justement parce qu'elles vont se retrouver en concurrence avec de grands opérateurs historiques qui, eux, maintenant, ont, je dirais, une forme de garantie de survie. Donc il faudra être très attentif que ces aides d'État ne soient pas utilisées par les grands opérateurs historiques pour marginaliser de petites compagnies sur des destinations sur lesquelles la concurrence est déjà relativement limitée. Je pense, pour être très, très clair, Eddy, pour un pays comme la France, toutes les destinations au départ de la métropole et à destination, par exemple, des territoires d'outre-mer. On sait qu'il y a très, très peu de compagnies aujourd'hui concurrentes d'Air France. Vous avez Air Caraïbes, vous avez Corsair, vous avez Air Tahiti Nuit pour Tahiti. On voit bien que la concurrence est quelque chose de très fragile parce qu'on a là des acteurs de petite taille, mais efficace. Donc, pour résumer, on aura nécessairement un impact sur la concurrence. Ce qui peut inquiéter, c'est peut-être la situation de ces petits acteurs dont la survie dépend quand même de la manière dont les grandes compagnies vont utiliser cet argent public. Alors, il y a des garde-fous, hein. La commissaire à la concurrence a très clairement dit, par exemple, que si jamais l'État rentrait dans le capital de Lufthansa ou d'Air France, hein, il y aurait un certain nombre d'actions qui ne seraient pas possibles, et notamment, par exemple, des prises de participation. Alors, on imagine mal qu'à la faveur d'une nationalisation, une compagnie domestique en profite, si j'ose dire, pour acheter ses petits concurrents. Mais le risque ne peut pas être écarté que ces aides d'État soient parfois mises à profit justement pour marginaliser de petits acteurs efficaces.
Alors, cette autre question, bien sûr, Emmanuel Combe, avant la crise du Covid, à la fois il y avait crise ou restructuration dans l'air pour certains acteurs, mais en même temps, on voyait le taux, le niveau de transport, le volume de transport aérien croître, le nombre de passagers croître. Beaucoup disent qu'ici, à la faveur du Covid, des confinements bien sûr, mais aussi tout simplement de la peur et du nécessaire changement en raison du changement climatique, il va falloir revoir la manière de transporter. Est-ce que le secteur aérien va en quelque sorte décroître en volume ou pas?
je n'y crois pas. Alors on peut s'en désoler, hein, mais pour des raisons notamment environnementales, mais je n'y crois pas du tout. Par contre, ce que je crois, c'est que la reprise va être extrêmement progressive. D'abord parce que les frontières restent en partie fermées, mais au-delà de ça, et au-delà même du fly scam, donc cette idée de, qu'on a un petit peu honte de prendre l'avion, notamment lorsqu'il n'y a pas de besoin nécessaire, je pense qu'il va y avoir comme une crainte, un sentiment de crainte, notamment sur les conditions sanitaires, à la fois pendant le vol, mais également lorsque l'on arrive dans un autre pays. Donc je crois plutôt qu'on va avoir un transport aérien qui va se rétablir, qui va retrouver la voie de la croissance, mais de manière très lente. Je vous rappelle que les prévisions de l'IATA donnent au mieux un retour à la normale en 2022, voire 2023. Donc, je ne crois pas à la thèse d'un déclin durable du transport aérien, je crois plutôt à la thèse, je dirais, d'un rebond progressif. Et dans ce rebond, qu'est-ce qui va repartir en premier? Ce sont essentiellement les vols de proximité, c'est-à-dire les vols intra-Europe, au détriment des vols très long courrier, d'abord parce que les territoires restent fermés, il n'est pas possible aujourd'hui pour un Européen d'accéder aux États-Unis, mais également parce que je pense que le comportement notamment des businessmen va être justement d'éviter de prendre au maximum l'avion. Donc on va avoir plutôt un trafic aérien local, intra-Europe, des vols de 2h, 3h, qui va plutôt cibler une clientèle touristique ou ce qu'on appelle également une clientèle affinitaire, c'est-à-dire des personnes qui reviennent dans leur pays, entre guillemets, d'origine. Donc pour répondre très clairement à votre question, je ne crois pas à la thèse d'un déclin structurel du transport aérien, même s'il y aura, moins pour des raisons morales que pour des raisons de crainte, une reprise extrêmement, extrêmement progressive.
Alors, vous l'avez dit donc, l'ultra low cost survivra selon vous à la crise. Les compagnies middle cost seront dans une situation, on va y revenir, beaucoup moins favorable. Et puis vous citez un contre-exemple, celui de Norwegian. Parlez-nous-en.
C'est très intéressant. C'est très intéressant parce qu'il ne suffit pas d'être low cost pour gagner de l'argent. Tout opérateur low cost n'est pas voué au succès. Et nous avons un parfait exemple avec Norwegian qui était déjà en difficulté financière et faisait des pertes. Une des explications, ça n'est sans doute pas la seule, c'est que Norwegian, en réalité, fait deux métiers différents à la fois. Elle fait ce qu'on appelle d'abord des vols intra-Europe, comme Ryanair, comme EasyJet. Et elle fait un autre métier qui est les vols long courrier. Eh bien, c'est intéressant de voir que les low cost qui réussissent, ce sont des low cost qui ne font qu'un seul métier. EasyJet a toujours refusé la tentation de se lancer sur le long courrier. Ryanair a toujours refusé cette tentation-là. Elle noue des partenariats, certes, avec des acteurs long courrier. Donc je pense qu'une des clés d'explication de Norwegian, c'est que Norwegian, au fond, souffre peut-être du même travers, ou en tout cas de la même caractéristique que les opérateurs non low-cost. Je pense que c'est un vrai sujet pour Air France, c'est un vrai sujet pour Lufthansa, c'est un vrai sujet pour British Airways. Il est très difficile de faire deux choses à la fois. Le long courrier, c'est un autre univers, c'est un autre mode, ça n'est pas un univers de low-cost. Moi, je ne crois pas trop au low-cost sur le long courrier, même s'il y a quelques opérateurs qui réussissent sur ce segment. Par contre, je persiste et je suis convaincu que l'on veuille ou non, il ne s'agit pas de défendre le low-cost, je ne fais pas l'apologie du low-cost, mais pour moi, la messe est dite. En Europe, l'enjeu aujourd'hui, c'est être middle-cost, être ultra-low-cost ou ne pas être. Et la grande difficulté de Norwegian, c'est qu'elle a voulu être finalement low-cost en Europe, mais également sur le long courrier. Je pense qu'on va avoir sans doute des surprises vis-à-vis de Norwegian, puisqu'elle a été partiellement recapitalisée. En tout cas, elle a bénéficié d'une aide d'État. Je ne suis pas certain que le modèle soit durablement pérenne. Donc là, on aura un acteur, mais majeur. Norwegian est un très gros acteur hein, qui pourrait, sinon accueillir la faillite, en tout cas, verra sa voilure réduire drastiquement. Norwegian est un acteur essentiel sur l'Europe du Nord. Et donc, il va libérer une place. Et s'il libère une place, il ne me surprendrait pas de voir des acteurs tels que Ryanair, Wizz Air, EasyJet repartir à l'offensive. Je pense que dans le monde post-Covid, on va vraiment assister, je dirais, à des cartes profondément rebattues en Europe, à mon avis plutôt en faveur des low-cost, sauf si les grands acteurs historiques qui ont aussi des atouts hein, prennent vraiment la mesure des réformes qu'ils doivent poursuivre.
Ça pose évidemment la question du management. Est-ce que aujourd'hui, à la tête de ces grandes compagnies européennes, alors pour le coup, le management est, à votre estime, capable de cette ambition à la fois de réforme et de prise de conscience du marché ?
Je crois que je serais à la fois bien imprudent et bien prétentieux de juger de la qualité des managers, n'étant pas moi-même manager. En tout cas, je constate que l'État français n'a pas hésité à aller chercher un grand capitaine d'industrie qui avait réussi avec Air Canada Rouge. J'ai parlé de Ben Smith. Je crois qu'au fond, l'idée n'est pas tellement de savoir s'ils vont réussir. Ils savent où ils veulent aller. Tant Lufthansa qu'Air France, ils savent le chemin qu'ils doivent prendre. Et ils le savent d'autant plus que ce chemin a été pris par une troisième compagnie dont vous remarquerez, il dit qu'on parle assez peu en Europe, c'est British Airways. Qu'est-ce qu'a fait British Airways aux alentours de 2010-2012? Elle a compris que le marché européen était tombé, allait tomber aux mains du low cost. Elle a racheté une compagnie low cost, Vueling. Et elle a transféré la totalité de ses vols, la quasi-totalité de ses vols, auprès de cette filiale low cost. Air France, Lufthansa savent très bien qu'il faut basculer sur ce modèle, on va dire middle cost, qui est plus un modèle EasyJet, respectueux du droit social et qui décolle des grands aéroports, qu'un modèle à l'arrière. Ils savent ce qu'il faut faire. La question, c'est peuvent-ils le faire? Et quand je dis peuvent-ils le faire, c'est très très difficile lorsque vous êtes un acteur high cost, historiquement plutôt marqué sur du haut de gamme. Air France a une très forte image de marque, positive, sur le long courrier. Il est très difficile de faire en même temps une activité qui n'est pas du tout dans votre ADN. Donc je crois qu'en fait l'enjeu n'est pas tellement de savoir où ils veulent aller, je pense qu'ils savent où ils veulent aller. Ils en ont les compétences. La question c'est comment emporter toute une équipe, on parle quand même de milliers de personnes, de dizaines de milliers de personnes, en leur expliquant que le low cost c'est pas forcément quelque chose de dégradé, que c'est une nécessité, qu'on peut faire du low cost, si j'ose dire, par le haut. Donc je crois que c'est, l'enjeu c'est vraiment ça. Lufthansa sait très bien que son avenir passe par Eurowings. Air France sait très bien, et d'ailleurs nous avons eu des annonces en ce sens, Air France sait parfaitement que son avenir en Europe se joue avec Transavia. Mais qui dit Transavia dit il faut ouvrir des bases hors de France. Or là ça pose des problèmes sociaux, notamment avec les accords pilotes qui pour l'instant interdisent cette option-là. Vous voyez bien que si vous faites monter en puissance votre filiale low cost, ça veut dire que vous réduisez la voilure sur votre marque historique, j'ai nommé Lufthansa et Air France. Donc je crois qu'au fond, la question est vraiment comment vont-ils gérer cette transition? Ils savent où ils doivent aller. La question c'est, y vont-ils suffisamment rapidement? La réponse pour moi à l'heure actuelle est clairement non. Ils doivent accélérer. S'ils ne le font pas, nous sommes vraiment dans une course de vitesse. Ce sont les low-cost pure players, les nouveaux entrants, si j'ose dire, EasyJet, Ryanair, Wizz Air, qui prendront la place. Donc on est vraiment, pour moi, dans une bataille de vitesse. La question est comment changer rapidement, très compliqué, Eddie, quand on est un acteur non low-cost, de devenir low-cost. Vous savez, on dit souvent, on est low-cost, on ne le devient pas. Je crois que cette formule est quand même riche d'enseignements. Il est intéressant de voir que British n'a jamais voulu se lancer dans le low cost. Elle a racheté une entreprise qui était déjà dans son ADN, une entreprise low cost. Donc oui, ils iront vers le low cost. Ils le font. La question, c'est le timing, l'accélération sera-t-elle suffisante pour être encore demain un acteur majeur dans le ciel européen. Alors, je redis ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on a parfois du mal à s'en rendre compte, le premier acteur en Europe, ça n'est pas Lufthansa. Si on exclut le long courrier, le premier acteur en Europe, loin devant, c'est Ryanair, avec 150 millions de passagers transportés. Donc on a vraiment, vraiment un enjeu presque vital pour moi, pour ces grandes compagnies. C'est d'accélérer cette mutation qui a été commencée il y a très longtemps. Je vous rappelle que Transavia est née en 2007-2008. Eurowings, ex-Germanwings, a aussi au moins une dizaine d'années. Donc ils savent que le low cost est au fond le modèle. Quand je dis modèle, il n'y a pas de jugement de valeur, mais en tout cas c'est ce qui marche. La question c'est comment y aller. Et je crois qu'il y a peut-être une réponse qu'on peut leur donner. Regardons ce qui s'est passé aux États-Unis. Vous avez une compagnie qui gagne de l'argent, où les salariés visiblement sont assez heureux, le taux de syndicalisation est de plus de 90%. C'est la première compagnie low cost aux États-Unis, c'est Southwest Airlines. Ce qui prouve qu'on peut faire un low cost par le haut, en respectant le droit du travail, en respectant les règles de droit. Et je crois que ça va être ça finalement le challenge pour les acteurs historiques, c'est convaincre leurs salariés que faire du low cost, ça n'est pas abandonner son ADN.
Merci pour ces précisions assez fouillées. Emmanuel Combes, vous les co-signez d'ailleurs avec Didier Bréchemier dans cette étude que vous publiez pour la Fondation pour l'innovation politique sous le titre « Avant le Covid-19, le transport aérien en Europe, un secteur déjà fragilisé ». Vous le publiez ici en mai. On peut le retrouver sur fondapol.org. Merci d'avoir été avec nous ce soir.
Merci Eddie.